France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et comment ne serais-je pas heureux aujourd'hui puisque je reçois l'un des très grands artistes de notre temps, Claude Lelouch, figure majeure du cinéma français du XXe et du XXIe siècle, car autant vous le dire, je suis ressorti enthousiaste d'une projection de son nouveau film « L'amour, c'est mieux que la vie », une œuvre pleine de poésie, d'humour, de tendresse, de gravité, de profondeur et de fantaisie, un film qui fait du bien face aux périls qui menacent, mais aussi un film plein d'orchestres et de chansons, alors je me suis dit que l'occasion était idéale pour une conversation sur Lelouch et la musique, la place qu'elle occupe dans sa vie et dans son œuvre.
Au début, nom, prénom, date et lieu de naissance.
Jésus. Ben, je suis né il y a un peu plus de 2000 ans.
Et vous, vous êtes qui ?
Ben, je suis Jésus.
Et le paradis, il est où dans tout ça ?
C'est vous qui transformez le paradis en enfer.
Bonjour Claude Lelouch.
Bonjour, bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir sur cette musique. C'est une des musiques qui jalonne donc votre nouveau film, où il y en a beaucoup, et notamment cet orchestre sur un bateau-mouche, un orchestre qu'on voit, parce que vous, au cinéma, il y a souvent des orchestres qu'on entend, mais vous, vous aimez bien qu'on les voit aussi.
Oui, oui, j'aime bien qu'on voit la musique, parce
voilà.
Que c'est beau un musicien qui joue. Un pianiste, un trompettiste, enfin n'importe quel musicien, il a... On sent qu'il est en connexion avec le divin au moment où il joue, et donc ça serait dommage de pas les voir.
Voilà, et les chanteurs qui chantent, vous les avez aussi beaucoup mis en valeur au fil de votre œuvre, où la musique est tellement importante, on va y revenir. Mais d'abord, peut-être un mot, la musique du film, elle est signée d'un de vos complices actuels, Laurent Couson, avec qui vous avez déjà fait plusieurs films, qui est un merveilleux musicien.
Oui, que Francis Lay aimait beaucoup, d'ailleurs c'est Francis Lay quelque part qui me l'a presque recommandé, donc il y a...
Il y a une sorte de
relais qui s'est fait comme ça. Et c'est vrai que c'est un garçon qui aime la musique, qui aime le jazz, qui aime toutes les musiques. Enfin, moi, j'aime toutes les musiques. Donc, c'est difficile de trouver à chaque fois un compositeur qui a l'élégance et la générosité d'apprécier même ce qu'on appelle les musiques un peu plus prétentieuses.
Voilà. Voilà.
Mais il n'y a pas de musique prétentieuse si elles font du bien.
Et alors, Laurent Couson donc, est évidemment le compositeur du film, mais il y a quand même aussi, justement, parce que j'imagine que ça a été un choc pour vous que la disparition de Francis Lay en 2018, un petit clin d'œil aussi à ce grand ami. Hein.
Ben oui, il y a encore... j'ai réussi à mettre encore une musique de Francis Lay dans ce film, bien sûr, avec des flashbacks, et puis un petit
beaucoup
clin d'œil...
Beaucoup de flashbacks d'ailleurs tout au long
du
film.
Oui, et puis il y a aussi un petit clin d'œil à Michel Legrand. Non, j'ai essayé avec ce film de faire des clins d'œil à tous les acteurs et compositeurs qui ont ponctué mes 50 films et à qui je dois beaucoup parce que sans eux, je ne serais pas grand-chose. Voilà. Voilà.
Alors, je ne vais pas dire que c'est une comédie musicale. D'ailleurs, c'est un terme que je pense qui ne convient pas dans l'ensemble à vos films. Et pourtant, beaucoup de vos films sont quand même des films musicaux, si j'ose dire.
Mais
est-ce que vous êtes d'accord ?
Tous mes films sont des films musicaux. Vous savez, j'ai eu la chance de commencer par les Scopitone.
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à faire ces Scopitone, j'ai compris à quel point la musique était importante,
ouais.
À quel point elle allait rythmer mes images, à quel point elle allait être la part d'irrationnel dans mes films.
Mais parfois même, j'ai l'impression dans vos films que chaque scène est presque comme un morceau de musique. Et il y a comme ça plusieurs thèmes musicaux et cinématographiques qui s'entrecroisent tout au long de la construction du film.
Oui, parce que j'adore mélanger le rationnel et l'irrationnel. Le rationnel, c'est le scénario.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et puis il y a l'irrationnel.
Que vous ne dédaignez pas pour autant, parce que vos scénarios sont très construits.
Oui, très construits, et puis il y a l'irrationnel. Alors évidemment, c'est une dualité permanente chez chacun d'entre nous. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, et l'irrationnel nous dit le contraire, nous dit qu'on est là pour l'éternité. Et je pense que la musique a ce parfum d'éternité.
Ouais.
C'est vrai que quand on écoute de la musique, on se sent mieux. Moi, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien.
On est d'accord.
C'est un peu de musique.
Voilà, un bon remède pour toutes les drames de la vie. Et votre dernier film en est aussi un. On va y revenir, mais je propose qu'on remonte un petit peu dans le temps avec vous, Claude Lelouch, en suivant donc ce film musical qui a été si important parmi quelques autres pour vous.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. T'as changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè. La vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum.
Charles Trenet, en 1938, vous n'étiez pas bien vieux, Claude Lelouch. Vous aviez un an.
J'avais un an et donc j'ai dû entendre...
Sur le poste de radio familial.
Oui, ou sur le tourne-disque qu'on avait, le 78 tours. Je sais que mes parents étaient fous de Charles Trenet. Et je crois que c'est la première personne qui m'a fait aimer la musique. Après, il y a eu tout de suite Édith Piaf, enfin,
oui.
Luis Mariano, parce que ma mère écoutait beaucoup Luis Mariano.
Ah, elle aimait aussi l'opérette. Ah,
comment,
oui.
Oui, on adorait l'opérette. Voilà. Et donc, non, la musique a fait partie de ma vie. Et je vous dis, comme je vous le disais tout à l'heure... À chaque fois que j'ai un coup de blues, j'ai besoin de musique.
Et vous avez grandi, alors on le sait, en plus avec cette période de la guerre où il a fallu vous cacher, un peu dans les salles de cinéma où votre mère vous mettait pour vous protéger.
Oui.
Donc vous avez vu tout le cinéma de l'époque. Je ne sais pas si vous aimiez la façon dont les cinéastes français de ce temps-là insérer très souvent des chansons justement dans leurs films, avec d'ailleurs Trenet, Piaf et beaucoup d'autres qui ont participé.
Oui, oui. Non, mais d'abord les chanteurs sont de formidables comédiens.
Oui. Vous les avez beaucoup utilisés d'ailleurs.
Moi je les ai beaucoup utilisés. Non mais c'est vrai que je vous dis, la musique a fait partie de ma vie intégrante et à tous les instants de ma vie, elle est arrivée pour me remonter le moral et me faire comprendre que le positif était plus fort que le négatif.
Alors justement, donc, vos parents, on peut dire, vous ont encouragé, hein, puisque votre père vous a offert, on le sait, votre première caméra. Vous avez appris le cinéma en faisant du cinéma, contrairement
oui,
à d'autres.
Je suis un vrai cinéaste amateur. Mais je revendique, voilà. Je suis encore un cinéaste amateur, je le revendique.
C'est beau de le dire comme ça, oui. Et puis, vous avez commencé à en faire aussi au service des armées dans lequel vous aviez été affecté. Et ensuite, donc, vous avez commencé, je crois, sous la protection de quelqu'un qui s'appelait Gérard Cyr, hein,
oui.
On a un peu oublié, à faire notamment ses scopitones.
Gérard Cyr, est arrivé au moment où mon premier film avait été un échec redoutable. Ouais. Et donc, je suis dans une situation financière cruelle. Uh-huh. Et je rencontre Gérard Cyr, qui me propose de faire des scopitones. Et je lui dis tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'un scopitone ?
Alors voilà, il faut rappeler aux auditeurs, parce que voilà, ceux de la jeune génération,
alors,
ils ne savent pas du tout.
Un scopitone, hein, c'est une chanson qu'on peut écouter dans un café.
Voilà.
Mais en plus du son, il y a l'image. Voilà. Donc, c'est les petites comédies musicales de l'époque, les premières. Après, on appelait ça des clips.
Des clips. C'est un jukebox avec image, en somme.
Voilà, c'est un jukebox avec de l'image. Et donc, d'un seul coup, on me propose de faire 1, 2, 3, 4. Et j'en ai fait 100.
100.
Donc, oui. Ouais. Même plus, de ça, plus que ça. Et ces scopitones m'ont sauvé la vie financièrement, artistiquement. Ils m'ont permis de faire la connaissance de toutes les grandes vedettes de l'époque.
À un rythme très intense, hein. Vous racontez quelque part que genre, vous filmiez Johnny Hallyday en Camargue le matin, Sylvie Vartan l'après-midi et Françoise Hardy le soir à
oui,
Paris.
Oui, voilà,
ça,
on faisait des fois trois clips, trois scopitones dans la journée. Mais ça restera sûrement une des plus belles périodes de ma vie parce que la musique, tous ces gens merveilleux qui avaient du talent, que j'avais la chance de rencontrer, de diriger. Et c'est vrai que bon, j'ai fait pratiquement le premier scopitone de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes.
Plusieurs avec Sheila également.
J'en ai fait avec Sheila, j'en ai fait avec Sylvie Vartan, avec Françoise Hardy, Dalida, Claude François, Claude Nougaro. Enfin, la liste est très, très impressionnante, même les Américains. Voilà. Donc, c'est vrai que ça reste pour moi un très, très grand souvenir, un très grand moment. Et
où il y avait une part de, on peut dire, d'art, de création personnelle dans un scopitone.
C'est-à-dire qu'on était obligé de faire avec ce qu'on avait. C'est-à-dire que on vous donnait pas les moyens de faire des reconstitutions. Il fallait aller voir les chanteurs là où ils étaient.
Ouais.
Des fois en province, des fois à Paris, entre deux tournées. Ils nous consacraient une heure ou deux, voilà, pas plus, et on faisait avec ce qu'on avait. Voilà, donc, mais ça m'a donné le goût de l'improvisation.
Et cette rapidité voilà, que vous avez, oui, c'est ça.
Et puis, la contrainte sollicitant l'imagination, j'ai été obligé de faire travailler mon cerveau, voilà, et j'ai très vite compris que la musique allait jouer un rôle très important dans tous mes films, si un jour j'avais la chance de faire des longs métrages.
Alors, j'ai ressorti un des artistes que vous avez scopitonné. Il est complètement oublié, c'est pour ça que ça m'amusait. Mais vous le citez dans un livre de souvenirs. Vous vous rappelez de Félix Martin et la rigolade ?
C'est mon premier scopitone.
Ah oui ?
C'est le tout premier scopitone que j'ai tourné. Et je...
Donc, artiste Gérard... oublié aujourd'hui.
Oui, non, alors dire. Gérard Cyr me dit... non, Félix Martin était un peu connu à l'époque, même connu. Et donc, c'est le premier artiste que je rencontre. Et Gérard Cyr me dit, écoute, voilà, il faudrait tourner La Rigolade avec Félix Martin. Quand il me dit demain matin, parce que c'est urgent. Donc, Félix Martin était dans la région d'Honfleur. Donc, on a tourné le film à Honfleur.
Déjà, la Normandie.
Voilà.
Les marins, les navigants, quand on revenait après 2 ans, nous prenaient tous une fois à quai, une vraie fringale de s'amuser, la rigolade. On appelait ça la rigolade. On s'habillait comme pour un sacre, on achetait au milieu des prix quelques gibus et un vieux fiacre. Et puis en route, fouette folie, la rigolade. On appelait ça la rigolade. C'était un vrai tourbillon de fou dans les maisons, dans les cafés. Laissez passer les rois, c'est nous. Sous chaque bras, une fiancée. Et l'argent nous partait des mains en feu d'artifice, en soleil. Ah bon Dieu, quel réveil matin. Quelle explosion, quel arc-en-ciel. La rigolade, on appelait ça la rigolade. Ça durait comme ça une semaine, on se retrouvait un beau matin, la bourse vide et la tête pleine, et déjà ça sentait la fin de la rigolade. Au petit jour, toute voile dehors, toute la ville était au port. Agitant ses femmes et ses fleurs, on repartait une larme au cœur, la rigolade. On appelait ça la rigolade. Nous les marins, les navigants, on remettait les voiles pour 2 ans. 2 ans. C'était fini la rigolade.
Voilà, je pense que c'est une découverte pour pas mal d'auditeurs.
Non, et puis même pour moi, j'avais complètement un peu zappé, oublié. Vous savez, le temps qui passe
oui, bien sûr,
fait des dégâts dans la mémoire. Mais c'est vrai que ça reste un très beau souvenir et Félix Martin était un homme charmant, adorable et donc c'est grâce à lui que j'ai fait ce truc. Alors le film a beaucoup plu et on m'en a donné un deuxième, un troisième, voilà. Un quatrième et puis je vous dis...
Et alors Claude Lelouch, Félix Martin d'ailleurs avait été lancé par Édith Piaf,
oui, avec c'est qui elle, il a eu c'est elle qui l'avait découvert.
Voilà,
l'avait
découvert. Et alors parmi les petites anecdotes vous reliant à ce monde de la musique et du musical, un jour aussi tout jeune, vous vous êtes retrouvé dans une voiture avec Édith Piaf.
Oui. Oui,
que vous admiriez tellement.
Oui. Alors écoutez, c'est très simple. Je tournais mon premier film, mon premier long métrage, Le Propre de l'Homme.
Fameux Propre de l'Homme qui a tout déclenché. Tout en étant un échec, c'est la vertu des impondérables.
Oui, oui, mais je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a tout appris. Donc je crois beaucoup à l'échec. C'est la plus grande école du monde. Donc pour revenir à Édith Piaf, je tournais donc devant les Galeries Lafayette en 1960 et. Il y avait une voiture, une traction qui me gênait. Donc je traverse la rue pour demander au chauffeur d'avancer un tout petit peu. Et il n'y a pas de chauffeur. Et à l'arrière, il y avait Édith Piaf. Évidemment, j'ai fait ce qu'on appelle un étonnement mémorable. Je l'ai regardé comme ça. Je ne savais pas si je rêvais ou pas, si je la reconnaissais ou pas. Et je lui ai dit, écoutez, madame, je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien vous? Elle me dit, oui, c'est bien moi. J'ai dit, écoutez, voilà, je tourne un film, je voulais demander à votre chauffeur d'avancer un tout petit peu, mais c'est pas grave, d'un seul coup, j'étais prêt à tous les sacrifices, et je lui dis, vous pouvez pas savoir à quel point je suis ému, parce que vous et Marcel Cerdan, vous êtes mes deux héros. Ben, elle me dit, écoutez, si vous aimez Cerdan et moi, venez me tenir compagnie. Donc je suis monté dans la voiture, on a attendu le chauffeur, et pendant ces 20 minutes qu'on a passées ensemble, elle m'a raconté son histoire avec Marcel Cerdan. Et à la fin de la conversation, je lui ai dit, écoutez, je devais sûrement être bouleversé, ému. Elle me dit, écoutez, si vous êtes vraiment un metteur en scène, parce que j'étais très jeune à l'époque, j'avais 22 ans, elle me dit, si vous êtes vraiment un metteur en scène, et si un jour vous avez envie de raconter notre histoire, je vous fais cadeau de ce que je vous ai raconté.
Et oui, vous en êtes souvenu précisément au moment de...
Quelques années plus tard, j'ai fait éditer Marcel en partant justement... de ces 20 minutes de confession. Que Édith Piaf m'avait fait dans la voiture.
Alors 60, donc c'est l'année de ce film Le Propre de l'Homme, un échec, on l'a dit, suivi de critiques désobligeantes, notamment dans les cahiers du cinéma, et donc entraînant une relation un peu compliquée avec ce mouvement qui est la Nouvelle Vague, et moi c'est une chose qui m'étonne toujours, parce que j'ai l'impression que par certains côtés, vous êtes ce que préconisait la Nouvelle Vague, c'est-à-dire vous êtes l'auteur absolu, vous êtes l'homme du cinéma vérité, vous êtes l'auteur libre qui crée un film, c'est ce qu'ils préconisaient tous, mais vous le faisiez spontanément, et pour autant, ils vous regardaient avec un œil pour le moins sceptique.
Oui, enfin, le vrai inventeur de la Nouvelle Vague, c'est De Sica, avec Le Voleur de bicyclette. C'est bien avant, c'est après ce film qu'on s'est dit, tiens, on peut faire des films avec rien. Voilà.
Ah, c'est ça, ouais.
Et puis c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement formidable.
Ce mouvement d'auteur,
Voilà, formidable, voilà. Mais auquel je n'ai pas tout à fait adhéré, parce que je trouvais qu'ils écrivaient mieux qu'ils ne filmaient. Je trouvais que c'était plus des littéraires.
Des critiques souvent d'ailleurs.
Voilà, ils venaient de la critique, et donc ils écrivaient très très bien, mais je ne trouvais pas qu'ils filmaient très très bien. Donc je n'ai jamais été un fou de la Nouvelle Vague. Vous savez, Audiard avait dit « Cette nouvelle vague, elle est plus vague que nouvelle.
» Ah, il est bon, Audiard. Oui.
Voilà. Et donc, c'est vrai que je n'ai jamais adhéré à leur façon de filmer. Et en même temps, c'est vrai que Godard a inventé la nouvelle vague à lui tout seul et il l'a tué à lui tout seul aussi. Oui, hein. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui était intéressant, qui fait que moi, je suis arrivé en même temps. Mais moi, je venais du cinéma d'amateur. Je venais d'un cinéma où on fait tout. Mmh. Un cinéaste amateur, il est obligé de s'intéresser à tout, au scénario, au dialogue, aux acteurs. Il peut même jouer. Il doit filmer, il fait le montage, il fait la musique. Enfin, on faisait tout. Et le cinéma d'amateur et la nouvelle vague, à un moment donné, se sont forcément retrouvés. Voilà. Et puis, pendant des années et des années... Donc je les ai côtoyés, j'ai été très proche à un moment donné de Truffaut, je connais Godard, je les ai tous connus.
Vous aviez quand même des relations,
j'avais
toi,
des relations avec eux, mais c'est vrai que je leur disais toujours, je leur faisais des critiques moi aussi, de mon côté, en leur disant « je trouve que vous écrivez mieux que vous ne filmez ». Donc même un jour j'ai été désobligeant avec Truffaut en lui disant « je dois beaucoup à la Nouvelle Vague parce que vous m'avez montré tout ce qu'il ne fallait pas faire voilà. ». Donc il l'a très mal pris. Voilà.
Alors on va reprendre, si vous voulez bien, Claude Lelouch, le fil musical de cette émission pour évoquer maintenant, un petit peu après ce premier film, votre rencontre avec quelqu'un qui allait jouer un rôle important et qui était notamment alors un jeune auteur de chansons.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition a des lois, l'ambition est un culte. Je voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau.
Et le jeune auteur de chansons, c'était évidemment Pierre Barou, ici chanté par Françoise Hardy, mais auteur auparavant déjà de chansons célèbres, comme notamment La bicyclette pour Yves Montand. Celle-ci, c'est vous qui la lui avez demandé,
non,
Claude Lelouch? Comment ça s'est passé?
On a fait Un homme et une femme avec Pierre, bien sûr, qui a été le succès que vous connaissez. Puis après le succès d'Un homme et une femme, mes rapports avec Pierre se sont un petit peu dégradés parce que on s'aimait à la folie tous les deux et donc on ne pouvait pas s'empêcher d'appuyer sur ce qui fait mal. Voilà. Et comme les plus grands amis du monde, un jour il me dit, tu sais, tu es en train de changer, etc. Et comme j'arrive pas à te dire ce que j'ai envie de te dire, j'ai fait cette chanson pour toi.
Ah oui?
Voilà. Il me dit, j'ai écrit cette chanson, voilà, j'ai fait cette chanson, tu l'écoutes. Et effectivement, il a essayé de me dire, et il l'a dit très bien dans cette chanson, ce qu'il avait envie de me dire à ce moment-là. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoute, elle est tellement belle cette chanson que je vais la mettre dans Vivre pour Vivre.
Voilà.
Et qu'on l'a fait chanter par Nicole Croisil, après Un homme et une femme.
Un homme et une femme. Pierre Barou, sauf erreur de ma part, vous l'aviez connu dans Une fille et des fusils, un de vos premiers films.
Non, bien avant.
Bien avant. Oui.
C'est-à-dire à l'époque de Gérard Cyr, toujours, et des fameuses Scopitones. Et à un moment donné, Gérard Cyr, on ne faisait plus des Scopitones, on faisait des émissions pour la télé qui s'appelaient Chansons en France. Et un jour, Gérard Cyr me dit, viens, on va tourner dans un château, je ne sais plus où c'était. Et à 3h du matin, arrive dans ma chambre Pierre Barou. comme s'il était 6 heures du soir, voilà. On avait une sorte de dortoir où on dormait tous ensemble, vous voyez. Ouais. On n'avait pas des gros budgets à l'époque. Et Pierre Barou se présente à 3 heures du matin. Salut Pierre Barou, Moustaki, Claude Lelouch, enchanté, voilà, etc. Et puis comme il avait sa guitare et qu'il nous avait réveillés, tout de suite, il nous a chanté quelques chansons. Et le charme a été immédiat. On est devenus plus qu'amis, voilà.
Et puis et vous l'avez donc utilisé
ensuite
comme
Pierre Barou qui
acteur.
M'a présenté Francis Lai par la suite.
Exactement. Alors, justement, avant de parler de Francis Lai lui-même, je voudrais rester un instant avec Pierre Barou et cette apparition tout à fait extraordinaire qu'il fait dans Un homme et une femme au tout début du film. Et je voudrais vous poser une question parce que moi, j'aurais tellement aimé être à votre place. Est-ce que vous vous rappelez comment on réagit à cette samba, Charles de Gaulle et Yvonne, son épouse, quand vous étiez avec eux à l'Élysée en train de regarder en projection privée Un homme et une femme?
Non, écoutez, alors tout ça, c'est des souvenirs qui se mélangent, vous voyez, une sorte de tourbillon, là. Non, d'abord, la samba, quand Samba me l'a fait écouter, il rentrait du Brésil.
Ouais.
Et il me dit, regarde ce que j'ai écouté juste avant mon départ. Il était comme un fou, il me fait écouter ça. J'ai dit, mais tu te rends pas compte, ça va aller dans le film.
C'est ça que, d'ailleurs, qui me fascine. Voilà. Comment est-ce que vous décidez tout d'un coup, dès le début du film, tout d'un coup d'insérer cette scène,
non,
cette chanson complète, etc.
À chaque fois que je tombe amoureux de quelque chose ou de quelqu'un,
ah oui.
Je ne peux pas m'empêcher de le filmer.
Ah, voilà.
Je veux dire que quand je mets quelqu'un dans mes films, quand je sors ma caméra, c'est comme si je disais « je vous aime ». Voilà. Et donc il m'a fait écouter cette chanson. Il arrivait du Brésil, spécialement pour tourner le film, le rôle que je lui avais. Il me dit « écoute ce que j'ai écouté, voilà ». Et je lui dis, écoute, on va la mettre dans le film. Et il me dit, où? Je lui dis, t'inquiète pas, elle sera dans le film. Ce rythme, c'est le rythme du film, c'est le cœur du film. C'est un miracle merveilleux que tu viens de ramener du Brésil, et je vais le mettre en scène dans le film.
Donc vous aimez quelqu'un, vous le filmez en train de chanter, vous vous dites, ça ira quelque part, et ensuite vous trouvez la place.
Quand j'aime les choses, je les fais rentrer dans ma famille.
Voilà,
vous voyez
voilà,
ce que je veux
ça,
dire
oui.
Je les fais rentrer dans ma famille, et après ma famille, il y a un fil invisible qui fait que toutes ces choses se relient entre elles. Voilà. Et donc, il y a eu effectivement cette fameuse projection à l'Élysée pour le général de Gaulle et sa femme. On était tous les trois à voir le film.
Tous les trois ensemble,
voilà.
Vous entre les deux.
Moi, j'étais entre les deux, etc. Et je me rappelais toujours qu'à la fin du film, j'ai vu que Madame de Gaulle avait les larmes aux yeux. Et le général, la première question qu'il m'a dit, c'est quoi la race du chien?
J'adore.
Donc j'ai compris qu'il était peut-être passé à côté de certaines choses essentielles alors que sa femme était bouleversée. Mais ça restera effectivement, ça fait partie de ces souvenirs qui sont surréalistes.
Mais cette scène extraordinaire qui fait un peu rêver aujourd'hui, parce qu'en plus aujourd'hui tout le monde est gaulliste, à l'époque ça ne vous a pas finalement tellement servi dans votre image, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de gens qui étaient anti-de
Gaulle. Oui, alors d'ailleurs, alors évidemment...
Vous avez eu l'étiquette tout d'un coup.
Avec le général de Gaulle qui avait beaucoup aimé le film, enfin ils l'ont fait savoir d'une autre façon, je suis devenu un cinéaste gaulliste. D'ailleurs on m'a confié les Jeux Olympiques de 68, voilà, et c'est vraiment qu'à l'époque la nouvelle vague n'était pas très gaulliste.
Et bien justement, tiens, à propos des Jeux Olympiques de 1968, écoutons cette jolie musique de Francis Lai.
Étonnez-moi Benoît Dutertre, France Musique.
Francis Lai, la musique de 13 jours en France. On se disait hors antenne que Francis Lai, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça tient, il y a ce charme, il y a cette poésie.
Non, il y a... c'était un ange. C'était un ange. Il était en relation permanente avec le divin. C'était un messager absolument incroyable. Voilà. Alors, c'est vrai que sa musique ressemblait à mes films. C'est Pierre Barou hein, qui me l'a présenté. Il m'a dit, écoute, il faut que je te présente un garçon qui fait de la musique comme tu filmes. Et Pierre Barou s'était pas trompé, effectivement. Et un jour, il m'a amené cet accordéoniste
voilà,
chez moi.
Voilà, accordéoniste niçois. Hein.
Voilà, qui avait accompagné Edith Piaf quand même.
Quand
enfin,
même.
C'était pas rien.
Oui.
Il est arrivé dans mon bureau. Enfin, c'était une chambre de bonne, mais moi, j'appelais ça un bureau, effectivement, à l'époque. Et il s'est mis à jouer. Et pendant des heures et des heures, j'en pouvais plus de l'écouter tellement c'était merveilleux. Je sais pas, j'avais d'un seul coup le sentiment d'avoir rencontré un frère jumeau, un double, quelqu'un qui était dans le positif, croyait aux choses qui sont merveilleuses. Voilà, donc c'était vraiment un ange. C'est vraiment un ange. C'est un homme qui était d'une modestie redoutable, redoutable. Je l'ai.
Et il était très simple. Moi, il m'avait reçu pour l'émission d'une façon merveilleuse.
D'une timidité redoutable aussi. Et c'est vrai, il doutait de lui en permanence. Il n'avait aucun sens critique sur son travail, sur le travail des autres. Et c'était quelqu'un à qui on pouvait tout dire, tout dire. D'ailleurs, il était la personne à qui je racontais mes films en tout premier. Je racontais mes films en tout premier. Puis après, je lui disais, bah, écoute, essaie de me raconter le même film avec des notes. Voilà. Et quelques semaines après, il m'appelait. Et effectivement, il me racontait la même histoire avec des notes.
C'était quand même plus un mélodiste qu'un orchestrateur. Donc, j'imagine que vous aviez aussi, avec lui, le recours choisi ensemble à des orchestrateurs.
Alors après, on a pris plein d'orchestrateurs qui étaient fous de Francis Lai. Donc, Christian Gobert, qui a joué un rôle très important à un moment donné.
Voilà, c'est ça.
Mais non, ce qui comptait chez Francis, c'était ces petites notes qu'on retient toute notre vie. Quand il m'a fait écouter pour la première fois le thème d'un homme et une femme, je me rappelle, avant de me faire écouter ce thème, il m'avait fait écouter une dizaine de thèmes qui étaient tous merveilleux, mais qui ne correspondaient pas à ce que je cherchais. Et puis à un moment donné, avant de partir, il me dit, écoute, j'en ai un dernier là, mais écoute, je te fais l'écouter à tout hasard. Il me fait écouter un homme et une femme. Je dis, qu'est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me faire écouter? Et après, on est resté pendant 12 heures d'affilée à travailler sur ce thème qui est devenu ce qu'il est devenu.
Cette musique tellement, tellement célèbre, ça c'était en 1965, un an avant la sortie d'un homme et une femme, avec le succès qu'on connaît, qui vous a valu aussi de rencontrer, on n'est pas très loin de la musique, des plus grandes figures de la comédie musicale, Fred Astaire et Ginger Rogers. Oui. Vous vous rappelez ce moment à Hollywood?
Oui, oui, alors c'est d'autant plus fou que mon père a dragué ma mère dans une salle de cinéma où il y avait un film de Ginger Rogers et de Fred Astaire.
Ah oui.
C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Et 30 ans plus tard, c'est Ginger Rogers et Fred Astaire qui me remettaient l'Oscar.
L'Oscar.
Vous voyez donc
voilà,
vous comprenez pourquoi je suis superstitieux.
Un moment assez extraordinaire. L'année suivante, c'est mai 68. Mais c'est d'abord les Jeux Olympiques d'hiver, donc qu'on vient d'entendre hein, avec ce film. Finalement, on pourrait dire que c'est juste un documentaire, mais vous avez toujours aimé justement passer d'un genre à l'autre, faire un film sur le sport et faire appel à Francis Lai. Pour vous, c'était peut-être pas aussi important que de faire une grande production, mais c'était quelque chose qui faisait partie de votre vie et de votre métier aussi.
Non, mais j'ai commencé comme reporter d'actualité. Donc, quand on m'a proposé de filmer les Jeux Olympiques, évidemment, j'étais fou de joie parce que je suis fou de sport. Et c'est vrai que je filme toutes mes histoires d'amour comme des compétitions sportives.
Voilà.
Et les compétitions sportives comme des histoires d'amour. Voilà, tout ça se mélange formidablement. Et c'est vrai qu'en amour, si vous n'êtes pas premier dans le cœur de quelqu'un, vous êtes deuxième. Quand vous êtes deuxième dans le sport, vous avez une médaille d'argent. Quand vous êtes deuxième en amour, vous êtes cocu. Donc il y a quand même des petites différences intéressantes.
Alors en 68, à Cannes, vous retrouvez vos amis et ennemis de la nouvelle vague, mais vous participez au mouvement, on peut dire.
Non, non, mais ils m'ont très vite récupéré parce que... Un homme et une femme, comme
me
l'avait dit à l'époque Truffaut, il me dit c'est le premier film de la Nouvelle Vague qui fait le tour du monde.
Voilà.
Il me dit c'est la première fois qu'un film de la Nouvelle Vague fait autant d'entrées. Donc, et c'est là où j'avais eu une petite discussion avec Truffaut pour lui expliquer que ce n'était pas tout à fait un film de la Nouvelle Vague. Mais j'adore tous ces gens-là. Ils ont fabriqué l'histoire du cinéma aujourd'hui, même s'ils ont massacré les metteurs en scène que j'adorais et qui m'ont
Exactement.
Fait aimer le cinéma. Voilà.
Exactement. En 69, encore une note... musical, on peut dire, dans le film Un homme qui me plaît, hein, vous avez choisi pour Jean-Paul Belmondo le métier
de
compositeur de musique de film.
Oui, oui, alors c'est drôle parce que j'avais dit à Francis Lai, tu vas voir, j'ai pris un compositeur qui est le contraire de toi.
Ah voilà.
Parce que autant toi t'es timide, tu as peur de prendre l'avion, de monter dans une voiture. Moi j'ai pris un compositeur de musique qui est un véritable cascadeur. Voilà. Mais vous avez quand même en point commun la musique, voilà, et ses notes de musique. Et c'est Francis, évidemment, qui a écrit la merveilleuse musique d'Un homme qui me plaît et le concerto pour la fin d'un amour à la fin avec Annie Girardot, où elle est bouleversante.
Quoi. Et vous êtes parfois un peu sévère sur ce film, mais Jean Dujardin, lui, considère que c'est un chef-d'œuvre, hein, vous saviez.
Oui, oui, c'est le film qu'il présente à toutes ses petites copines quand il fait connaissance. Il me dit, si elles n'aiment pas, je les quitte. Voilà.
Ah, carrément, oui. Alors, on va encore se faire un petit saut dans le temps avec une chanson, un film à grand succès à nouveau, une voix de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, et d'ailleurs ses obsèques, c'était Johnny Hallyday.
L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure, elle est là qui vous attend à soi. Il faut gagner et oublier. L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours, oui pour toujours. L'aventure, c'est l'aventure.
Johnny Hallyday dans L'Aventure, c'est l'aventure, évidemment, un film qu'on est nombreux à avoir vu et à avoir aimé, où on voit Johnny chanter cette chanson jeune et merveilleux, Johnny Hallyday, que vous aviez donc déjà filmé en Scopitone.
En Scopitone, oui, oui.
En Camargue.
On a grandi ensemble, on a grandi ensemble, on ne s'est pas quitté, voilà, et c'est vrai que je l'ai retrouvé après dans Salon On T'Aime beaucoup plus tard, sur un rôle qui nous ressemblait à tous les deux. Voilà.
Et alors, c'est intéressant parce que là encore, il y a quelque chose qu'on retrouve souvent dans vos films, Claude Lelouch, c'est ce que j'oserais dire la chanson-titre. Hein. C'est-à-dire que c'est une chanson qui donne son titre au film ou inversement et qui est une espèce de, aussi de fil conducteur dans la création de cette œuvre.
Oui. J'aime bien que les titres soient des pitchs.
Voilà.
J'aime bien que les titres racontent un peu ce que j'ai envie de raconter. Et moi-même, quand j'ai le titre du film, je me sens rassuré. Je sais de quoi je vais parler. Tous les titres de mes films sont pour moi des pitchs. Et j'adore faire des chansons de tous ces titres.
Voilà, exactement. Voilà,
à chaque fois qu'on peut faire une chanson...
Pas à chaque fois, mais il y en a beaucoup.
Mais à chaque fois qu'on a pu faire effectivement une chanson avec les titres des films... Car effectivement, les chansons se fredonnent dans les salles de bain, se fredonnent dans la rue, et c'est le public dans la rue qui va au cinéma.
Une autre chose qui m'a un peu frappé, sinon surpris, Claude Lelouch, vous qui êtes un homme si doué, de tous les talents, quand vous faites un film, vous filmez, vous écrivez les dialogues aussi, la plupart du temps, etc. Alors pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas les paroles des chansons et que vous faites appel à Barbe Livien, à Barou et à d'autres pour ces chansons?
Parce que c'est un talent que je n'ai pas.
C'est un métier spécial.
C'est voilà. Un métier spécial. J'ai essayé quelques fois. Les seules paroles que j'ai écrites, c'est Dabadabada.
Ah oui, d'accord. Voilà. Remarquez, c'est resté dans les mémoires.
C'est resté dans les mémoires.
Bon.
Non, mais c'est un talent. C'est un talent très particulier. C'est une gymnastique très particulière qui ne correspond pas à l'homme d'image que je suis.
Que vous êtes. Ouais.
Voilà. Et donc, comme il y en a qui font ça très, très bien, j'ai pris les meilleurs qui ont écrit les paroles de mes films.
Une autre chose qui m'a frappé, c'est que vous avez souvent recouru à de très grands chanteurs dans vos films, comme acteurs, et sans forcément les faire chanter. Là, Johnny, il chante, mais Brel, par exemple, vous ne l'avez pas fait chanter.
Non, il chantonne à un moment donné dans l'aventure, ouais. C'est l'aventure, mais si Jacques avait eu le temps de jouer les prolongations, j'aurais pu le faire chanter.
Ah voilà. Oui, d'accord. Mais bon, ça ne s'est pas imposé, en somme.
Non, ça ne s'imposait pas. Non,
et on tente de la même façon.
Non, je ne les ai pas tous fait chanter, même Dutronc, je ne l'ai pas trop fait chanter, un petit peu dans le Bon et les Méchants, voilà. Mais c'est vrai que, vous savez, la plupart des chanteurs n'aiment pas trop chanter au cinéma. Ils ont envie de montrer...
Qu'ils savent faire autre chose.
Voilà, qu'ils savent faire autre chose. Patrick Bruel ne veut pas chanter au cinéma. Enfin, je peux en citer plein comme ça qui ne veulent pas chanter. Bon, puis il y a ceux qui acceptent. Moi, je trouve que chanter, c'est la synthèse parfaite. Une chanson, je suis jaloux des chansons réussies, parce que c'est des films réussis. En 3 minutes, ils font ce que moi, j'ai du mal à faire en 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai une admiration folle pour ces chansons qui ont bercé ma vie, quoi.
En tout cas, vous avez enrichi le répertoire de la chanson à travers vos films également. Et c'est encore le cas de cet autre, évidemment, film légendaire, hein, dont je voudrais qu'on parle maintenant, Les uns et les autres, où la musique, alors, est peut-être encore plus importante que dans... pas tous les autres, mais que dans beaucoup d'autres.
C'est vraiment un opéra qu'on a essayé de composer à partir de tous les genres musicaux. Et c'est vrai que je voulais, pour cet opéra, avoir évidemment Francis Lai, Michel Legrand, qui est...
Vous l'aviez rencontré comment, Michel Legrand?
Michel Legrand, d'abord, je l'ai rencontré à travers ses films, à travers son talent, etc. Puis à chaque fois qu'on se croisait, on se disait, tiens, un jour, il faut faire un film ensemble. Et puis un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, mais j'aimerais vous marier à Francis Lai. Alors évidemment, sur le moment, il y a eu un petit choc parce que...
Chacun pour soi.
Alors que Francis Lai a dit oui tout de suite.
Oui, c'était plus le genre.
Voilà, oui. Et j'ai réussi à convaincre Michel Legrand, et puis je lui ai dit, il n'y a pas que Michel Legrand, il va y avoir aussi Ravel, voilà, parce que je voudrais que le boléro de Ravel rythme ce film. Je trouve que c'est la musique de film parfaite, c'est vraiment la musique, d'ailleurs on peut la mettre sur n'importe quel film, ça marche.
Ouais.
Voilà, le boléro de Ravel, c'est ce cœur qui bat, c'est le cœur de l'humanité qui bat.
Mais en même temps c'est très osé, parce que de mettre dans un film qui est une histoire, avec des acteurs, etc., un morceau entier de 16 minutes, ça n'a pas été souvent fait avant vous.
Oui, mais ça faisait partie du pari. Ça faisait partie du pari, et seul Ravel pouvait réunir Francis Lai et Michel Legrand.
Sans parler des droits d'auteur du boléro.
Oui, les droits d'auteur de Ravel, j'en parle pas, parce qu'il est numéro un à tous les box-office.
En tout cas, voilà, dans ce film, effectivement, c'est la conjugaison de ces deux grands artistes, dans des musiques qui nous font aussi traverser le XXe siècle. Alors, on va justement pouvoir redécouvrir ces musiques dans un CD qui sort chez FGL bientôt.
Une
version, on peut dire, remasterisée.
Pour fêter les 40 ans du film, on a décidé de ressortir la musique du film, qui a eu à l'époque un succès mondial. Voilà, donc on a décidé de la remettre en place, au goût du jour. Enfin, on n'a rien changé, on n'a pas touché les orchestrations, on a tout gardé. Mais c'est vrai qu'avec les technologies d'aujourd'hui, la musique, on l'entend différemment.
Et là, ce sont les Folies Bergères, donc c'est le côté Francis Lai.
Ça, c'est le côté Francis Lai.
Habille-toi un peu.
uns et les autres un extrait de la musique qui reparaît. Donc ici, c'était Les Folies Bergères, revue par Francis Lai. Je ne sais pas si vous avez un goût, Claude Lelouch, pour le musical, oui. Ces grands orchestres, oui. Ces lieux.
Oui, mon père m'emmenait justement aux Folies Bergères. Enfin,
ah oui.
Mais les premières fans nues, je les ai vues là.
On voit bien d'ailleurs dans le film le prom noir et tout.
Mon père adorait aller à l'Olympia, à Bobino, donc je l'ai suivi comme ça, j'ai grandi. On ratait rien du tout, on allait beaucoup au Châtelet,
ah oui.
L'Auberge du Cheval Blanc, etc. Les grandes opérettes de l'époque, j'ai grandi avec...
Les orchestres de Jacques Ellian,
Ray Ventura, tout ça. Mais c'était des gens qui avaient la joie de vivre au cœur du ventre, vous voyez ce que je veux dire.
Et on sent votre amour de tout cela dans le film.
Je vous dis, à chaque fois que les choses vont mal, j'ai besoin de cette musique, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux de Ray Ventura, on s'en lasse pas, vous voyez ce que je veux dire, je l'ai mis dans plusieurs de mes films.
Mais il y a un dosage subtil toujours dans vos films, et notamment pour la musique, entre le document d'archives ou les œuvres que vous préférez recréer réellement.
Il y a la musique originale, bien sûr, et puis il y a aussi la mémoire.
Voilà, dans votre dernier film notamment, on voit apparaître notamment Lino Ventura et d'autres proches qui ressurgissent.
Oui, tout simplement parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir fait 50 films, j'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film. Et donc j'ai envie de reconstituer ma famille avec cette trilogie que je suis en train de faire. Là, c'est le premier volet d'une trilogie, donc il me reste.
Ça va être un seul film au départ, non ?
Non, au départ, je ne pouvais pas faire un film de 6 heures parce que les conditions d'exploitation aujourd'hui ne le permettent pas. Mais j'aurais adoré faire un film de 6 heures.
C'est vrai.
Et donc, je le fais en 3 temps. Donc, il sera en 3 mouvements. Et donc, L'amour, c'est mieux que la vie est le premier mouvement de cette trilogie.
Voilà, un film, je le redis, qui est un pur bonheur. Mais on va y revenir dans un instant. Je propose un autre extrait des uns et les autres. Là, c'est Le Côté Michel Legrand, parce qu'on ne peut pas le célébrer aujourd'hui. Avec qui, il faut dire, vous avez également fait d'autres films. Partir, revenir, Les Misérables. Donc, c'était évidemment là aussi très différent, j'imagine, du travail avec Francis Lai.
Oui, je pense que Francis Lai et Michel Legrand, c'est l'auteur parfait. C'est le compositeur parfait, les deux.
Des deux.
Parce que leur talent est absolument complémentaire. C'est vrai que c'était mon rêve de les réunir. J'ai réussi à réaliser ce rêve. Mais après, c'est vrai que Michel Legrand est un technicien hors pair. Et que très souvent, dans des films où la technique est un peu plus compliquée, Michel Legrand a des astuces absolument incroyables pour se sortir de situations qui sont... très très difficile à expliquer simplement avec de l'image. Je veux dire que la musique parle à notre part d'irrationnel, comme je vous le disais tout à l'heure. Si Dieu parle une langue, c'est la musique. Vous voyez, c'est le langage de Dieu. Et donc, avec la musique, je sais que je peux m'adresser à tout le monde.
Michel Legrand, une des musiques rééditées donc tout récemment du film Les Uns et les autres. J'ai le bonheur aujourd'hui d'être avec Claude Lelouch. Je vous ai même pas demandé, et pourtant je l'ai lu souvent, la façon dont vous utilisez la musique dans les tournages, c'est-à-dire que vous la diffusez pendant les tournages.
Oui, alors d'abord j'enregistre la musique de mes films toujours avant le film.
Toujours.
Toujours.
Toute
la musique.
Ah oui.
Toute la musique, parce
c'est rarissime, il faut le dire aux auditeurs, dans le monde du cinéma,
oui,
en général.
Oui, oui, en
les
général,
cinéastes commencent un film, ils ne savent même pas à qui ils vont demander
la musique. Mais souvent, quand on fait la musique après, c'est pour boucher les trous. Moi, j'invite la musique comme un acteur principal. Je veux dire qu'elle joue un rôle important dans les rapports humains, dans la façon dont les personnages évoluent. Et donc, la musique est aussi un merveilleux directeur d'acteur. Moi, à un moment donné, je suis à court de mots, je sais plus, j'ai plus d'arguments pour que les acteurs soient de mieux en mieux, et je leur fais écouter la musique du film sur le plateau et
la solution est là.
Et d'un seul coup, la musique leur dit ce que j'arrive pas à leur dire avec des mots. Voilà. Donc c'est aussi un grand directeur d'acteurs. Et puis je vous dis encore une fois, elle réveille leur inconscient, elle réveille l'irrationnel à la fois des spectateurs, mais aussi des acteurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, la musique va chercher notre inconscient. Ouais. Elle parle pas à notre intelligence. Vous voyez, la musique, elle laisse ça au scénario. Voilà. Ouais. Elle, la musique, elle nous explique qu'on est là pour toujours, et donc il y a une part d'éternité dans la musique qui fait qu'elle nous fait du bien.
Malheureusement, on peut pas évoquer aujourd'hui, Claude Lelouch, tous vos films. Vous en avez fait tant et tant de si beaux films.
Je m'excuse.
Non, ça veut dire que vous reviendrez, j'espère.
Bien sûr, avec plaisir.
On pourrait citer évidemment, parmi tant d'autres, L'itinéraire d'un enfant gâté et que tout le monde a vu également, 1988, et puis bien d'autres. On va y revenir un instant, mais je me demandais justement, parce que c'est un film très drôle, L'itinéraire d'un enfant gâté, et c'est pas le seul, vous êtes un merveilleux artiste de comédie, mais qu'est-ce que vous pensez des genres? Est-ce que vous décidez, quand vous allez faire un film, tiens, ça va être une comédie, tiens, ça va être une histoire d'amour, ou c'est toujours un peu un mélange de
Non, moi, c'est un mélange de genres. Je pense que la vie est un mélange de genres, et c'est ce mélange de genres que je privilégie, avec, bien entendu...
Des films qui sont plus des comédies, d'autres qui sont plus des drames, par exemple.
Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence. Je crois que les deux grandes inventions de la vie, les deux plus belles inventions de la vie, c'est l'amour et l'humour. Voilà. Et donc, j'ai souvent appuyé sur ces deux inventions. C'est vrai que quand j'arrive à mélanger l'amour, l'humour et l'aventure, ça fait des bons films, quoi.
Mais j'ai trouvé que dans vos derniers films, celui qui va sortir et puis le précédent, La vertu des impondérables, il y avait une liberté, une fantaisie, un sourire, même devant des sujets graves comme celui de la mort, qui sont tout à fait fascinants et qui montrent, je dirais, un artiste au sommet de son art qui ne suit que ses propres règles pour notre bonheur.
C'est la force d'un cinéaste amateur.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que je ne discute pas avec les professionnels de la profession, comme dirait Jean-Luc Godard. Je discute uniquement avec un spectateur que j'aime beaucoup, c'est Claude Lelouch. Et je fais des films pour Claude Lelouch, et je me dis, si je fais plaisir à Claude Lelouch, ça pourra peut-être faire plaisir aux autres.
Et c'est communicatif, je vous assure.
Oui, oui, non, mais c'est vrai, j'ai envie de me faire plaisir. Vous savez, je vais au cinéma tous les jours, j'ai vu tous les films. Ouais, moi, tous les grands films de l'histoire du cinéma, je les ai vus, et je leur dois beaucoup, parce que je leur ai beaucoup pris. Mais c'est vrai que à chaque fois, j'essaye de faire le film que j'ai envie d'aller voir. Voilà, et c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de me recentrer sur les yeux des comédiens, parce que c'est dans les yeux que se trouvent ces parfums de vérité. La seule partie de notre corps qui ne sait pas mentir, c'est les yeux. Et donc, les yeux et la musique, ce sont des parfums de vérité auxquels je suis très, très sensible. Voilà, et donc, il y aura de plus en plus de musique et des gros plans sur les yeux dans mes films.
Et puis, en somme, aujourd'hui, on peut dire, Claude Lelouch, que vous savez.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Claude Lelouch, vous êtes un sage maintenant, comme Gabin dans cette belle chanson.
Mais écoutez, c'est une chanson sublime. C'est une chanson sublime parce qu'elle résume merveilleusement ce tour du monde qu'on essaye de faire, ces mystères qu'on essaye de percer, on essaye de comprendre... L'invisible, voilà, donc non, c'est une chanson merveilleuse.
Et parole de Dabadi, hein.
Oui, quel auteur, et c'est vrai que, non, j'aime beaucoup cette chanson.
Et Gabin, que vous avez raté, ou pas tout à fait quand même, parce que vous avez sympathisé, et puis le film ne s'est jamais fait.
On s'est rencontrés, on a fait un déjeuner que j'oublierai jamais, parce que les déjeuners avec Gabin, c'était mémorable, j'ai pu le vérifier. On s'est mis à table à 1h, on est sorti à 5h, et on avait décidé qu'on ferait un film ensemble, qui serait Le chat et la souris. Et là, s'il est parti, je voulais refaire le couple Gabin-Morgan, qui m'avait fait rêver quand j'étais gosse. Et je me suis dit, je vais voir si je peux encore faire rêver avec eux. Voilà. Et donc, j'avais écrit Le chat et la souris pour Gabin et Morgan. Hélas, Gabin nous a quittés. Donc, j'ai demandé à Reggiani, qui avait aussi beaucoup de talent et qui avait marqué mon enfance, de remplacer Gabin.
Voilà, et là il parle donc de l'amour, de la vieillesse, de la mort, et ce sont des sujets qui sont au cœur de votre nouveau film, hein, je le rappelle, qui sort dans quelques jours, L'amour c'est mieux que la vie, avec Gérard Darmon, Sandrine Bonner, Harry Habitant, Philippe Lelouch, formidable d'ailleurs, tous les deux d'une drôlerie dans une des scènes du début du film, un film complètement loufoque, avec Jésus, avec mais en même temps très structuré, comme toujours vos films, voilà, oui, j'ai admiré cette fantaisie, et puis... Un film sur la mort qui n'est pas un film triste.
Non, parce qu'il faut être très copain avec elle, puisqu'on y a tous droit. Ouais. Vous voyez ? Non, et j'ai très envie de croire que c'est...
Vous essayez de la dompter comme ça, à travers
le cinéma ?
Non,
je ne la dompte pas, mais jamais personne n'est venu pour s'en plaindre. Il n'y a jamais eu de réclamation. J'ai envie de croire que c'est une promotion. Vous savez, bon, ouais. Je pense qu'on vit dans une carrosserie qui elle, vieillit. Mais le moteur, lui, il est là pour toujours. Voilà. Donc, j'ai très envie d'être très ami avec cette ligne d'arrivée qui m'attend, puisque à l'âge que j'ai, je suis sur la liste, quoi.
Un film, en tout cas, que je ne peux que recommander chaleureusement à tous les auditeurs. Vous connaissant, vous avez déjà attaqué le numéro 2, j'imagine, non? Dans votre tête, au moins?
Non, pour l'instant, je fais la promotion de ce film. Voilà. Donc, on a fait un tour de France qui a été formidable avec un public enthousiaste et des standing ovations partout. Mais c'est vrai que le 2 et le 3 sont prêts dans ma tête et que dès le mois de juin, je me remets au travail. Voilà.
Eh bien, merci en tout cas d'être venu nous en parler, Claude Lelouch. On va se retrouver quand même quelques instants encore pour évoquer des musiques qui vous sont très chères, mais j'étais vraiment heureux qu'on puisse faire ce parcours, voilà, d'une vie à travers la musique.
Comme nos voix, badabada, dabadabada, chante tout, babadabada, dabadabada, nos cœurs, voix, badabada, dabadabada.
encore une croix, bada bada, bada bada bada. Encore une fois, bada bada, bada bada bada. Tout recommence, la vie repart. Combien de joie,
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et Claude Lelouch, puisque vous nous faites l'amitié d'être présent ce matin sur France Musique, je me suis dit qu'on allait prolonger un peu le plaisir jusqu'à midi et demi avec de musique vraiment classique, mais qu'on jouait un rôle important dans votre vie, dans votre œuvre. Il s'agit du deuxième concerto de Rachmaninoff et puis bien sûr du Boléro de Ravel qu'on a déjà un petit peu évoqué. Alors commençons par ce Rachmaninoff. C'est en 1985 d'en partir revenir et on dirait que c'est un moment où vous avez eu le besoin et l'envie comme ça, voilà, de vous approprier aussi à travers le cinéma le grand répertoire romantique.
Ben oui, parce que je pense que Ravel et Rachmaninoff sont deux musiciens qui ont fait les plus belles musiques de films, alors que c'était pas des musiques de films au départ.
Voilà. Ils ont influencé.
Voilà. Et comme ils n'avaient pas le cinéma à leur disposition, ils ont été obligés avec leur musique de tout raconter. Ouais. Je veux dire que ces deux morceaux, le Boléro et le concerto de Rachmaninoff, racontent la vie. Ouais. Quand on écoute ce concerto, je vois toute ma vie passer. Le bien, le mal, les hauts, les bas, le chaud, le froid, voilà. Et je ne sais pas, ils ont fait une synthèse extraordinaire avec la musique. Comme ça, il y a une part d'éternité qui fait que...
Mais ce n'est pas forcément facile à insérer dans une histoire.
Je veux dire qu'on peut, si on écoute ces deux morceaux, je pense qu'on a déjà compris ce qu'est la vie.
Ouais.
Voilà, avec ses contradictions, avec ses beautés, ses erreurs. Je pense que la vie est une cause d'emmerdement au pays des merveilles.
Et
ça raconte merveilleusement cette cause d'emmerdement au pays des merveilles. Et on voit que les merveilles sont plus fortes que les emmerdes. C'est pour ça qu'on se bat tant pour que la vie soit ce qu'elle est. Mais c'est vrai que ces deux morceaux racontent comme jamais, je pense, la vie. Mais tous les morceaux de musique racontent ça. Donc, mais ces deux-là sont particulièrement chers,
en tout cas. Et on va écouter donc le premier mouvement du concerto de Rachmaninoff, joué par le compositeur sous la direction de Léopold Stokowski.
Thank you.
Premier mouvement du deuxième concerto de Rachmaninov, choisi par mon invité Claude Lelouch, que je vais malheureusement devoir quitter dans quelques instants. C'était un très beau moment, je vous remercie d'avoir été ici. On va se quitter avec le Boléro de Ravel, d'abord parce que moi, pour moi c'est une drogue dont j'ai besoin, je crois, voilà, autant que vous. Mais aussi parce que c'est un moment extraordinaire du film Les Uns et les Autres. Vous nous rappelez juste en une minute ce tournage incroyable sur le parvis du Trocadéro.
Oui, oui, ça a été une soirée de folie. D'abord, ça a commencé par un orage qui a déchiré le ciel de Paris. Donc on a cru qu'on ne pourrait jamais tourner. Puis cet orage a dégagé le ciel. On a eu une visibilité absolument incroyable. Et puis il y avait ce soir-là Maurice Béjart, évidemment.
Avec Georges Donne.
Et Georges Donne qui dansait le Boléro. Et ça a été un moment magique, une nuit de folie. Et je dois saluer Georges Donne qui a dansé le Boléro 4 fois de suite. 4 fois 20 minutes.
Pour le tournage.
Pour le tournage.
Dans la foulée.
Dans la foulée, enfin, avec, avec 20 minutes d'arrêt entre chaque. Et je crois que c'était un exploit. C'est un record du monde qui a été battu ce soir-là par Georges Donne. Et donc, je voudrais le saluer ce soir, ainsi que Maurice Béjart, qui ont fait de ce Boléro une œuvre éternelle.
Ça a été perçu comment, cette scène étonnante de 15 minutes à la fin d'un grand film?
Eh bien écoutez, les gens ne s'enlaçaient pas et les gens se levaient et applaudissaient dans la salle. Voilà, on avait droit à la fin du film à des standing ovations, ouais, qui était sûrement dû en grande partie à ce fameux Boléro.
Voilà, c'était l'hommage, un des hommages de Claude Lelouch à la musique. Merci d'avoir été avec nous pour en parler ce matin. Merci beaucoup Claude
Merci
Lelouch.
Pour ce flashback merveilleux.
Thank you.
sur ce boléro de Ravel dirigé par Pierre Monteux à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres s'achève ce spécial Claude Lelouch que j'étais heureux de vous proposer ce matin. C'était Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Maxime de Peretti, réalisation David Travailleur. Et la semaine prochaine, eh bien, je recevrai Julien Lepers, que vous connaissez peut-être par la télévision, mais qui a aussi beaucoup à voir avec la chanson. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.